Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jacques-Yves Molima. Le gouverneur du Nord Kivu était sur le terrain à Rougari. Le lieutenant-général Constant Dima y était pour s'enquérir de la situation avant de superviser personnellement les opérations militaires où des tirs à l'arme lourde ont été lancés à partir de Kibumba en direction de Nyesisi où se serait rétranchi l'ennemi. Le prix du transport en commun dans la ville de Butembo a pris de l'ascenseur. C'est la conséquence logique de la surchauffe du prix du litre du carburant à la pompe. Le président de la FEC Butembo Lubero, Polycarpe Ndivito, explique cette situation par la hausse du prix du baril à la raffinerie du Kenya. Jean Syriac Graoun, officier de la protection au HCR, il a supervisé l'opération de rapatriement du premier convoi de près de 270 réfugiés burundais vers leur pays d'origine. Il sera notre invité peu avant la fin de cette édition. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu pour commencer, situation relativement calme ce jeudi à Rougari et Nyesisi. C'est dans les groupements Rougari et Kisigari en territoire de Rutshuru. Les deux villages étaient depuis lundi dernier les théâtres d'attaques et d'affrontements entre l'armée et les rebelles présumés du M23, causant ainsi la fuite de centaines de ménages. Le gouverneur des provinces s'est rendu hier sur le terrain à Rougari pour s'enquérir de la situation. Ceci avant de superviser personnellement les opérations militaires où des tirs à l'arme lourde ont été lancés à partir de Kibumba en direction de Nyesisi où se serait rétranché l'ennemi. Les détails avec Denise Lukesu.
À Nyesisi, groupement de Kisigari, les chefs de groupement affirment que la situation est relativement calme ce jeudi. Pas de tirs entendus depuis le matin. Selon lui, ce qui a permis aux jeunes du milieu d'extraire tôt le matin les corps de l'officier tombé sur les champs d'honneur depuis lundi dernier et qu'ils ont acheminé au camp de Rumangabo pour des dispositions militaires. Les Mouamis Justin Komayombi salue ce geste patriotique et courageux de sa population. C'est là, après une tentative hier sans succès. Il déplore cependant le fait que quelques jeunes aient essuyé des tirs de l'ennemi quand ils tentaient de récupérer ses corps. Il souligne que plusieurs villages de son entité restent fantômes. À Rougari Centre, le chef de groupement voisin témoigne également d'un calme précaire et situation imprévisible. Le trafic routier est normal, les écoles ont réouvert. Le gouverneur des provinces est arrivé hier à Rougari, où il s'est entretenu avec le commandant secteur et d'autres officiers militaires. Lundi dernier, les rebelles présumés M23 ont attaqué le village Nyesisi, attaque qui aurait fait d'importantes pertes et des blessés du côté de l'armée, mais également a jeté des centaines de ménages sur le chemin d'exil. Depuis Kiwanja, Denise Lukesu, Radio Kapi.
On reste au Nord Kivu, la coordination provinciale de la société civile demande au président congolais de renforcer la sécurité et surveillance aux frontières rwando-congolaises. Cette structure, à travers un communiqué de presse rendu public hier mercredi, réagit aux attaques depuis lundi des présumés M23 dans les territoires de Rutshuru. Son président demande par ailleurs au FRDC de renforcer la proactivité. John Banyene au micro de Bernardin Nyangi.
La nuit du 24 au 25, ces M23 ont attaqué les positions de FRDC au niveau de Nyesisi, Ngugo et Kigeri. Là, il y a eu des pertes côté de FRDC. Et la population a commencé à se déplacer, même jusqu'à ce matin. Nous, on a toujours dit que nos frontières sont poreuses. Et nous observons que nos FRDC jouent seulement à la défensive au lieu de faire l'offensive. Donc, ils attendent d'être attaqués pour riposter. Raison pour laquelle nous sommes entrés de lancer un cri d'alarme. Nous invitons surtout le chef de l'État qui est commandant suprême et le chef d'État-major général de venir ici au Nord Kivu parce que ce n'est pas la première incursion de ces éléments M23, voire même les RDF. Ils entrent souvent chez nous comme ils veulent parce que nos frontières ne sont pas vraiment sécurisées. Raison pour laquelle nous, on invitait le chef de l'État pour augmenter les effectifs militaires sur la frontière congolo-rwandaise pour que nous puissions connaître que notre intégrité territoriale est vraiment protégée.
Et puis en plus bref, toujours au Nord Kivu, au total, 8 officiers de FRDC de la 34e région militaire comparaissent depuis hier mercredi devant la cour militaire pour des faits graves selon les ministères publics. Les uns sont inculpés par le parquet militaire pour des faits de détournement des deniers publics et tentative de corruption à la délégation de l'inspection des FRDC. Deux d'entre eux sont poursuivis, l'un pour infraction de fuite et devant l'ennemi en territoire de Rutshuru et l'autre pour coup et arrestation arbitraire commise à Beni. En Ituri, la société civile de Djougou dénonce la présence de plusieurs localités, des éléments de la CODECO. Selon cette structure qui le dit ce jeudi, ces rebelles ont installé une administration parallèle et font payer des taxes à la population. Ils interfèrent même directement dans les règlements d'un conflit. Conséquence, la population se sent asphyxiée par ces rebelles et plaide pour l'instauration de l'autorité de l'État dans ces entités sous contrôle de l'ennemi. Martial Kiza, Biamungu.
Selon la société civile de Djougou, le secteur de Walendo-Piti est occupé à 90% par des assaillants de la CODECO. Pour ce qui est du secteur de Djatsi et Piti, cette structure citoyenne affirme que 40% de leur territoire sont sous le contrôle de ces miliciens. Le président de cette structure, Gilles Tsouba, indique que ces rebelles font payer des taxes dans les marchés locaux, sur les routes et sur les produits champêtres. Ils ont également instauré des tribunaux où ils règlent des conflits familiaux, des cas de vol et d'autres conflits de société. Tous les chefs locaux obéissent à ces rebelles qui règnent à roi dans ces entités. Gilles Tsouba attribue cette situation à l'absence prolongée de l'administrateur militaire du territoire de Djougou, ce qui, selon lui, occasionne un manque de l'autorité de l'État.
Cette population est prise vraiment en otage du fait de l'ordre que le gouvernement peut donner. Même les chefs coutumiers ne travaillent plus.
L'administrateur du territoire de Djougou contacté reconnaît la situation. Le colonel Mabousso Assamba ajoute que les opérations militaires se poursuivent sur le terrain et que le fait de ne pas être présent au chef-lieu du territoire de Djougou n'est pas la cause de la présence de miliciens dans cette entité. Entre-temps, la population continue de subir la loi de ses assaillants. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, reprise normale des activités ce jeudi dans la commune de Moulekira, en ville de Beni, après 3 jours de vives tensions. Des jeunes de certains mouvements citoyens et groupes de pression manifestés pour exiger la fin de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Au Congo central, une résurgence de la criminalité s'observe dans la cité côtière de Mwanda. D'après les habitants de la cité de Mwanda, dans l'espace de près de 3 semaines, des hommes appelés communément Kuluna ont perpétré plusieurs cas de cambriolage et d'extorsion dans plusieurs localités. Dans une interview à Radio Kapi, l'administrateur du territoire de Mwanda indique que des réunions se multiplient entre l'autorité locale, le service de sécurité et des forces vives pour définir des stratégies afin de mettre un terme à cette insécurité. Nana Plurich Mambou, reportage.
D'après les témoignages de certains habitants de la cité côtière de Mwanda, c'est depuis près de 3 semaines que leurs quartiers sont secoués par une insécurité caractérisée par l'incursion des bandits munis d'armes blanches dans les domiciles des paisibles citoyens. Plusieurs personnes ont été blessées, de bien des valeurs et argent emportés, affirment des témoins. Hier, mercredi, aux environs de 19h, ces hommes munis de machettes ont opéré dans une cabine téléphonique située au quartier Océan en allant vers la base militaire de Kitona. Ils ont ravi sur leur passage 3 motos, des téléphones, de l'argent et d'autres biens du responsable de la cabine. Les habitants disent en avoir marre. Ils appellent les autorités locales à prendre des dispositions qui s'imposent quant à ces.
Nous sommes désolés pour ce qui se passe dans la cité côtière de Mwanda. Les Kuluna posent des actes que la population n'arrive pas à comprendre. Ils ont cassé la cabine et ils ont tout volé, même le moto. Donc nous sommes fatigués de l'insécurité qui règne à mettre dans cette entité. C'est pourquoi nous demandons à l'AT de faire tout pour arrêter cette hémorragie.
De son côté, l'autorité locale affirme que des réunions se multiplient avec les services de sécurité et des forces vives pour définir des stratégies pouvant mettre fin à cette insécurité. Signalons que ses habitants attendent voir des mesures concrètes issues de ces réunions pour que la sécurité s'améliore. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et puis, le présumé auteur du meurtre de Joseph Touta l'a tué dans la nuit du samedi 22 janvier dernier vers le palais de la Nation, a été reconnu coupable de faits mis à sa charge. Le prononcé du jugement est intervenu mardi dernier lors d'une audience foraine organisée sur le site du palais de la Nation. Plus de détails avec Jean-Francis Mouya dans cet élément.
La condamnation de Nkodiankulu Frank, élément de la garde républicaine, a été prononcée le mercredi dernier par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, siégeant en procédure de flagrance. Il a été reconnu coupable du meurtre de Joseph Toutala et a été condamné à la peine capitale.
Faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort.
Les bavures à répétition, enregistrées dans le chef des éléments de la police et des forces armées, font réagir certains acteurs de la société civile. Le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, Georges Kapiamba, fustige le relâchement dont les commandants des unités et chefs des corps font preuve dans leur manière d'organiser les services de protection des citoyens.
Les autorités congolaises ne maîtrisent pas la manière dont les forces armées ainsi que les éléments de la police se déploient sur le territoire national. Il y a une sorte de divagation.
Il soutient en outre que le port d'armes à l'État ne devrait être réservé qu'à un certain nombre d'éléments de ses corps et cela uniquement quand le besoin s'impose.
On ne peut porter les armes à l'État que dans des circonstances exceptionnelles. La législation est claire.
Rappelons que le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Amouli, a mis en garde les éléments de la police en ce qui concerne le mauvais comportement dont font preuve certains d'entre eux. C'était lors de la parade organisée au Stade des Martyrs en début de semaine.
À Boutembo, les prix du litre de carburant est monté depuis ce mercredi à 3500 francs congolais à la pompe, voire même 4000 contre 2500 il y a quelques jours. Cette hausse est la conséquence de la rupture de stock du carburant auprès des pétroliers. Le président de la FEC Boutembo Lubero, Polycarpe Ndivito, explique cette situation par la hausse du prix du baril à la raffinerie du Kenya où la production a sensiblement baissé. Cette flambée des prix affecte les secteurs de transport en commun dans la ville de Boutembo, Florida Kahambu.
Pour les mototaxis, principal moyen de transport en commun à Boutembo, les prix de la course a doublé selon les destinations, ce qui inquiète les clients. Comme le témoigne cette ménagère.
Là où j'ai payé 500 francs, on me demande 1000 francs. Et là où j'ai payé 1000 francs, on demande 2000 francs. C'est devenu difficile parce que avec les 1000 francs, je faisais aller-retour. Et vu la vie que nous vivons aujourd'hui, je suis obligé de marcher à pied. À cause de cela, j'ai réduit mes courses pour économiser un peu d'argent. Parce que nous qui avons des enfants qui vont à l'école chaque jour, nous ne devons pas manquer de l'argent pour leur payer les taxis de chaque jour.
Cependant, dans les agences de voyage, les prix du billet de Boutembo vers d'autres agglomérations n'a pas changé. C'est ce que dit Mboussa Winning, vice-président de l'ASECO Grand Nord Kivu. Notons que le prix du carburant a pris de l'ascenseur quelques jours seulement après les communiqués du ministère de l'économie fixant les prix du litre d'essence à 2450 francs congolais dans la zone Est. Polycarpe Ndivito, président de la FEC Boutembo Lubero, qui dit que ce prix était déjà d'application, explique la situation actuelle par la diminution de la production de pétrole à la raffinerie du Kenya où s'approvisionnent les pétroliers congolais. Boutembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Dans la province du Bazuélé, le pont Roubi jeté sur la rivière portant le même nom à l'entrée de la ville de Boutembo sur la nationale numéro 4 est sous la menace d'effondrement. En cause, le vol de croûts par des inciviques depuis une semaine, ce qui risque de provoquer l'écroulement de cet ouvrage dans les jours qui viennent. Heureusement, grâce à la dénonciation d'un homme averti, la police a mis la main sur un jeune homme qui s'est livré à cette sale besogne. Jacques Moukonkolé.
L'opération de retrait frauduleux de ces écrous a débuté depuis une semaine, déclare la gouverneure du Bazuélé. Ruth Badouli précise qu'un jeune homme de 22 ans a eu l'audace de desserrer ses écrous avant de venir le récupérer le lendemain durant une semaine. Remarqué par un homme curieux de le voir régulièrement sur ce pont, muni d'une clé, ce dernier a averti la police. Les forces de l'ordre l'ont surpris en flagrant délit lundi dernier et l'ont mis aux arrêts. Dans sa jubessière, 67 écrous déjà retirés des traverses du pont. Selon l'autorité provinciale, le directeur de l'office des routes a été appelé pour les constats du pont et de mesurer les risques éventuels. Si ce pont s'effondrait, avertit Ruth Badouli, le Bazuélé serait coupé de la ville de Kisangani, sa principale voie d'approvisionnement en produits manufacturés. Afin d'éviter ce désagrément, Ruth Badouli interpelle ses administrés.
Faut que la population prenne vraiment conscience de surveiller le patrimoine pour le bien-être de notre province. La population est là pour la surveillance et puis dénoncer le plus vite possible aux services spécialisés.
Afin de dissuader certains inciviques qui seraient tentés de se livrer à pareil comportement, la gouverneure promet d'affecter une équipe de policiers à l'entrée de ces ponts pour la garde. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Pendant ce temps, sud Kivu, la route nationale numéro 5 est menacée de coupures à plusieurs endroits dans les escarpements d'Ngomo. C'est entre Bukavu et Kamanyola. Cette nationale d'importance économique capitale relie le sud Kivu au Katanga en passant par le Tanganyika. L'office des routes est à pied d'œuvre en ce moment pour tenter de maintenir le trafic sur ce tronçon Emmanuel Amiji.
Ce sont plus les érosions au bas des montagnes qui menacent la RN5 dans les escarpements d'Ngomo entre Bukavu et Kamanyola. La principale menace se situe entre PK40 et PK45, communément appelée Chemusimbi, dans le territoire de Walungu. L'office de route, avec un financement provisoire du FONER, s'attelle à maintenir le trafic. Monsieur Anissé Kakese, directeur provincial.
Avant Musimbi, nous devons construire un dalo. Toutes les eaux qui viennent de la montagne, que ça prenne le dalo pour passer. Nous avons construit un dalo PK, je pense, 41 ou bien 42. Les usagers, ils doivent être patients. Nous allons couper la route. Nous allons mettre un pont provisoire pour permettre aux gens de passer, mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. Nous allons finir le travail. La durée, bon, on donne 3 mois, hein, parce qu'il faut que le béton durcisse.
Après 3 jours d'intenses travaux, le trafic est réouvert aux seuls engins de petit tonnage sur le pont provisoire au moment où la construction du dalo se poursuit. La route nationale RN5 relie Bukavu à Lubumbashi sur une distance de 1356 km. Elle passe par Kamanyola et Uvira à travers les escarpements d'Ngomo. La RN5 traverse Fizi avant d'atteindre Kalemi, Pueto, Kasomeno et chuter sur Lubumbashi. Emmanuel Elamijwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
Après les pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations au Mozambique, à Madagascar et au Malawi, l'heure est au bilan. Les trois pays compteraient au moins 47 morts et d'importants dégâts matériels. Au Malawi, au moins 4 personnes sont mortes et ceux qui ont pu s'en sortir sont sous le choc.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Jean Syriac Graoun. Il est officier de protection au HCR. Il a supervisé l'opération de rapatriement du premier convoi de près de 270 réfugiés burundais vers leur pays d'origine. Il s'entretient ici avec Fiston Goma, suivi.
Jean Syriac, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez un bilan à présenter par rapport à 2021 aux opérations de rapatriement?
En 2021, nous avons réalisé un très bon bilan. Nous avons réalisé 34 convois d'un total de 9669 individus réfugiés que nous avons rapatriés du côté du Burundi. Nous sommes là ce jour dans le cadre de l'organisation du rapatriement volontaire, activité que nous avons commencé depuis le 23 septembre 2020 et qui se poursuit. Alors, ce jour, c'est le premier convoi de l'année 2022, donc c'est ce qui explique un peu notre présence à la frontière burundo-congolaise. Nous avions prévu de rapatrier 320 personnes et finalement, ceux qui ont pu embarquer, qui ont accepté, qui ont confirmé leur intention de retour, ils sont au total 78 ménages de 272 personnes.
Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour leur évacuation depuis le camp des réfugiés jusqu'ici à la frontière, au regard de toutes ces difficultés sur la route?
Au regard des standards du HCR dans le cadre du rapatriement volontaire, il est toujours dit que les rapatriés doivent être, ou du moins les réfugiés qui veulent être rapatriés, doivent être rapatriés dans la sécurité et dans la dignité. Ce sont ces conditions-là que nous avons respectées. Nous avons veillé à ce que la sécurité du convoi soit assurée par la mobilisation d'éléments de la police nationale congolaise et nous avons mis des véhicules avec un certain confort pour le transport à la fois des personnes qui sont normales et entre griffes et aussi les personnes à besoins spécifiques qui ont bénéficié des moyens de transport spécifiques.
Au regard de toutes les rumeurs qui ont pesé sur vos opérations de rapatriement, hier et aujourd'hui même dans Uvira, Fizi, quel mot est-ce que vous avez à placer par rapport à ces rapatriements, cette catégorie des personnes rapatriées?
Effectivement, nous avons entendu un certain nombre de rumeurs, des vidéos qui ont été balancées sur le net, nous avons également écoutées. Ces vidéos parlent d'une certaine communauté que le HR transporterait et qui susciterait en tout cas des réactions de la part de la communauté locale. Mais je tiens à préciser ici que le rapatriement qui est fait ce jour et que nous avons commencé, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu depuis 2020, c'est un rapatriement qui est officiel, ce n'est pas une activité cachée. Le rapatriement volontaire fait partie des solutions durables que le HR applique. Alors donc, ce rapatriement volontaire que nous avons initiée et que nous sommes en train de continuer. Donc c'est une activité officielle dans laquelle le gouvernement congolais est impliqué et c'est d'ailleurs le gouvernement congolais que le HR et ses partenaires soutiennent. Donc c'est des personnes qui ont été reconnues réfugiées depuis un certain temps et qui ont exprimé leur désir de retourner dans leur pays. Ce sont ces personnes-là que nous sommes en train de rapatrier. Ce n'est pas une activité clandestine, c'est une activité officielle. Le gouvernement congolais est impliqué dans cette activité et le HR et ses partenaires ne font que appuyer le gouvernement dans le cadre de ce retour. C'est ce que je peux dire à ce stade.
Comment comptez-vous vous y prendre pour cette année 2022?
C'est une dynamique qui est en place. Nous espérons continuer la dynamique, sinon l'améliorer. Et cette année, nous prévoyons de rapatrier 15 000 réfugiés à peu près. La route, cette année, quand on prend un peu la portion de la route entre Baraka et Uvira, ça a été nettement amélioré. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement parfaite, mais on va essayer de mobiliser des moyens en conséquence pour pouvoir faciliter ce rapatriement-là. Sinon, si la route n'est pas faisable, quelquefois on va utiliser le bateau.
Quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez pu mettre les réfugiés par rapport à la Covid-19?
Il y a des mesures qui sont prises. Quand vous regardez dans les véhicules en ce moment, tous les réfugiés portent des masques. Donc d'abord, il y a une distribution de masques qui se fait au moment de monter dans les véhicules. Il y a le système de lavage de mains qui est également en place. Et nous essayons de minimiser un peu le nombre de personnes par véhicule pour pouvoir respecter la distanciation sociale. On privilégie l'embarquement en tenant compte des familles. Le test se fait à l'arrivée au Burundi. Le test Covid se fait à l'arrivée.
Merci beaucoup Jean Syriac.
Merci beaucoup monsieur.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.